Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30 pour l'heure des pros. Emmanuel Macron rêve d'une Europe fédérale. Il ne le dit pas aussi clairement bien sûr, mais c'est son dessein. Hier dans son discours fleuve, 1h50, le général de Gaulle disait l'essentiel en 15 minutes, il a prononcé à de multiples reprises le mot « souveraineté ». Mais jamais il n'a dit souveraineté nationale. Alors de quelle souveraineté parle-t-il ? Emmanuel Macron pense qu'en matière économique, politique, pour la défense comme pour l'immigration, un gouvernement supra-européen avec un exécutif unique serait plus efficace que 27 gouvernements qui partent dans tous les sens. En théorie, il n'a d'ailleurs pas forcément tort. Le souci, c'est qu'Emmanuel Macron habite en théorie. Il regroupe les États comme on fusionne les entreprises. Et tant pis pour l'histoire, la culture, les peuples. Monsieur Macron aime les PowerPoint et les tableaux Excel. Je reste fasciné par Emmanuel Macron et comment cette intelligence résonne, dénuée du bon sens le plus élémentaire. Hier, le président a évoqué la mort possible de l'Europe. À l'entendre à la Sorbonne, ce n'est pas l'Europe qui agonisait, c'est la France qu'on enterrait. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le RN est toujours en tête des sondages pour les européennes. La liste de Jordan Bardella gagne même un point cette semaine dans notre baromètre OpinionWay pour CNews Europe 1 et le JDD et atteint 30% des suffrages. La liste Renaissance est loin derrière avec 18%. Mais selon Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, rien n'est encore joué.
Nous sommes aujourd'hui sur, évidemment, à 6 semaines du vote. Nous sommes à un moment où nous ne sommes pas encore entrés. Dans quelle vision de l'Europe avons-nous? Moi, mon message est extrêmement clair. L'Europe est menacée. Et je crois que c'est la première fois que nous avons une élection où se joue l'avenir de l'Europe. Et c'est cela que je veux partager avec nos concitoyens.
Kenji Girac a voulu simuler un suicide après une dispute avec sa femme. C'est ce que le chanteur a raconté aux enquêteurs pour justifier sa blessure par balle. Le procureur de la République a donné une conférence de presse hier. Kenji aurait voulu faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a comparé le mouvement pro-palestinien dans les universités américaines au rassemblement de Charlottesville en 2017. Il y avait eu de violents affrontements entre des partisans de la suprématie blanche et des contre-manifestants antiraciste. Une jeune femme avait même été tuée. Et bien d'après l'ancien président américain, Charlottesville, ça n'était rien du tout comparé à ce qui se passe aujourd'hui sur les campus. Écoutez.
Si vous regardez les manifestations dans les universités dans tout le pays et au-delà des universités, car cela a lieu dans d'autres endroits aussi, vous voyez ce qu'il se passe avec la Palestine et Israël, et les manifestations et la haine, la colère. Biden envoie un message absolument horrible. Il y a des manifestations partout. Joe Biden parlait de Charlottesville. Charlottesville, c'était des cacahuètes. Ce n'était pas le type de haine qu'il y a ici. C'est une haine immense.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana. Excellent week-end à vous. Nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Catherine Rambert. Bonjour.
Bonjour, Pascal. Merci de m'accueillir.
Eh ben, merci vous, d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et vous êtes donc pour la première fois avec nous. C'est une émission pas toujours facile, je vous préviens, il faut prendre la parole. Et...
J'ai le plaisir de la regarder régulièrement,
voilà, donc,
je sais où je mets les pieds.
Ils sont rudes parfois, les uns et les autres.
Ça, c'est le camembert.
L'essentiel, c'est que Pascal vous laisse un peu la parole.
Oui, non,
juste
c'est
la dixième de seconde.
Mais c'est extraordinaire. Voilà. Le camembert qui dit tu plus roquefort, quoi.
Eugénie Bastier, j'ai vu que CNews était attaqué sur un plateau de télévision par un journaliste de Libération, M. Thomas Legrand, qui expliquait que dans CNews, sur CNews, il y a des fake news,
y a
pas de journalistes, etc. Mais vous lui avez répondu. Vous lui avez répondu notamment
que sur Libération, il leur arrivait régulièrement de publier des fake news, notamment
Notamment, ils avaient relié l'affaire, vous savez, de l'hôpital bombardé
bien sûr, oui.
En Israël. Et voilà. Et puis bon, j'ai l'impression que Thomas Legrand est légèrement obsédé par votre chaîne.
Très léger.
Mais c'est-à-dire que c'est une manière d'exister de parler de notre chaîne souvent, parce que ça, voilà, c'est mieux de s'occuper effectivement de faire des
bons. Ça fait vendre du papier.
Mais voilà, il ferait mieux de faire des bons papiers. Bonjour Joseph Massescaron.
J'ai encore encadré la une de Libération célébrant l'arrivée des Khmers rouges dans Phnom Penh.
Oui, mais bon, ça c'est il y a 50 ans.
Peut-être 50 ans, oui, mais non.
Gauthier Lebret, que je salue, et André Valigny. Alors on parlera évidemment du président de la République tout à l'heure, 1h50, je le disais. Ce qui est saisissant ce matin, c'est qu'il n'y a pas un mot nulle part quasiment dans la presse. C'est-à-dire que le président a parlé dans l'Europe hier, même Ouest France par exemple, qui est le grand journal souvent qui aime mettre l'Europe à la une, n'en parle pas en première page, Le Figaro n'en parle pas en première page. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a parlé pendant 1h50, il y a très peu, on parle davantage de Kenji Girac.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont parlé longuement pour se faire plaisir hier. Effectivement, le procureur de la République sur Kenji Girac et le président de la République.
On parlera également de ce procureur. Il va peut-être entrer chez Voici, je pense, procureur.
Il
peut faire une petite pige pour.
Il y a Augustin Donadieu qui nous racontait une anecdote exceptionnelle. Le procureur, il voulait être seul face aux caméras. Il avait demandé aux gendarmes de se décaler et de mettre leur chaise pour être hors cadre et ne pas être filmé. Et finalement, les gendarmes sont quand même venus dans le cadre.
Bon, écoutez, parfois, on regrette que les procureurs. Alors, procureur de Crépol, on regrette qu'il n'ait jamais parlé. Et lui.
Oui, il a eu son petit coup, quart d'heure warolien. Bon. Voilà.
Omar Sy, ça m'intéresse, Omar Sy, qui était hier soir dans l'émission Quotidien, à l'occasion de son dernier livre, Viens, on se parle. Alors, il a décidé de donner des leçons à la terre entière, Omar Sy, et des leçons notamment, alors je ne sais pas de qui il parle précisément, mais je crois qu'il n'habite plus en France, Omar Sy.
Il habite à Los Angeles.
Bon, il habite à Los Angeles. Mais alors, il nous donne des leçons à ceux qui sont en France et on peut l'écouter.
Ce qui m'appartient, c'est mon intimité. Ça, c'est pas pour tout le monde. Mais en revanche, la notion de justice, d'égalité, de fraternité, de tout ce qui nous manque d'ailleurs. Méfiez-vous encore une fois là-dessus, messieurs, dames. Mais c'est un truc qu'on en a plus du tout, justement. Parce que on a ces gens qui sont en train de cracher leur haine et qui essaient de mettre au goût du jour une France du passé avec des idées bien arrêtées, avec des « elle est où la maman ?» etc. Ces genres d'idées-là, il faut juste se rappeler que les gens qui ont porté ces idées-là dans le passé ont conduit la France dans des endroits très très sombres. Il faut se rappeler de ça. Et donc moi je dis juste attention. Et parce que ça nous concerne tous, en fait, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut. Comment on a envie d'interagir, en fait. Comment on a envie d'être ensemble. Comment on a envie de faire le groupe. Parce qu'aujourd'hui, on est chacun, justement, en train de parler de soi. Mais il ne s'agit pas de ça. Sur l'espace public, on ne parle pas de soi, de l'individuel. On parle du groupe. Et aujourd'hui, c'est mon problème. J'ai l'impression que c'est que tout le monde parle de soi, de soi, de soi, de soi. Et on oublie le groupe. Ce qui fait qu'on a des individus, justement, qui prétendent être chefs. Mais qui en fait sont juste des individus et souvent mégalomanes. Mais en fait, un chef, c'est celui qui s'occupe du groupe. Et il n'y en a aucun de tout cela qui parle du groupe. Il parle d'eux, de ce qui les blesse, de ce qui les dérange, de ce qui leur fait peur. Mais il ne parle pas du groupe.
Alors j'adore le sketch, mais il est où, Fred ? Il est parti ? Ils ne sont plus ensemble ?
Non, mais il devrait peut-être s'abstenir d'avoir des discours politiques parce qu'on ne comprend absolument pas d'où il veut en venir. Mais derrière, on voit quand même peut-être. C'est vrai. Un certain prêt-à-penser, on va dire, qui a sans doute été enseigné d'ailleurs à l'école de la République pendant des années, c'est-à-dire la France a été dans les heures sombres, a été conduite par l'extrême droite, avec une définition extensible à l'infini de l'extrême droite. J'aimerais juste dire à Omar Sy, alors lui il vit dans une villa très luxueuse à Los Angeles, donc il ne voit peut-être pas la réalité des États-Unis concrète, mais je voudrais aussi qu'il se rappelle aussi que la France, c'est pas les États-Unis et que justement, notamment les minorités, même raciales, sont mieux traitées en France qu'aux États-Unis, notamment du point de vue de l'égalité même concrète, économique, et que nous sommes un pays sans doute moins déchiré, moins fracassé, moins polarisé que ne le sont les États-Unis. Alors lui, il ne le voit sans doute pas parce qu'il vit dans une bulle très très fermée, je pense, et très 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 riche en réalité aux États-Unis, mais qui regarde peut-être la réalité de la société américaine et qui la compare à la réalité de la France, et il verra peut-être que la France n'est pas l'enfer qu'il décrit.
Catherine Rambert.
La capacité des artistes, on aime bien Omar Sy, on aime tous bien Omar Sy, à enfoncer des portes ouvertes, c'est quelque chose qui a toujours été édifiant chez moi, m'a toujours frappé. Et puis quelqu'un qui vit à Los Angeles, qui parle de la capacité à vivre ensemble, alors qu'il ne vit plus avec nous depuis longtemps. Bon. ça donne un petit peu à réfléchir. Moi, je trouve que les artistes, ils nous abreuvent de bons sentiments. Et moi, j'ai dirigé pendant longtemps un magazine télé. Et le décalage entre le discours public, je dis pas que c'est son cas, le discours public plein de bons sentiments et le comportement privé, ça m'a souvent...
Ce serait assez intéressant de parler du comportement privé, effectivement.
Et on va d'ailleurs peut-être en parler un peu avec
Christine Girac. Mais
voilà, mais il y a une dichotomie absolue entre les donneurs de leçons, de bons sentiments, de l'accueil, de l'ouverture, et des gens qui vivent enfermés dans des beaux appartements, avec leurs belles voitures de luxe, et pas assez puants parfois dans l'intimité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas d'Omar Sy.
Non, non, mais... Moi, ce que je trouve formidable, c'est le plateau.
C'est pas le cas, mais lorsque vous allez, par exemple, à Étretat, en Normandie, où était traité,
tourner la série Lupin.
Tourner la série Lupin, vous avez, les Étretatais ont, disons, notamment les personnes qui l'ont aidé, les forces de l'ordre, les gendarmes, etc., ont une vision, un peu plus contrastée.
Aussi, vous pouvez aussi demander aux gens de chez Gaumont ce qu'ils en pensent. Mais je n'en dirai pas davantage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le plateau hier. C'est le plateau. C'est-à-dire que personne n'ose intervenir. T'as l'impression que c'est le Messie qui s'exprime. Bien sûr. Non, mais c'est du gloubi-boulga. C'est ce qu'il dit, c'est incompréhensible.
Complet.
On ne sait pas de qui il parle, comment il parle, tout ça. Et personne n'ose dire, mais en fait, vous dites n'importe quoi. De qui vous parlez, de quoi vous parlez. Personne n'ose lui dire ça. Donc qu'il écrive, qu'il dise les mots qu'on lui a écrits, ce sera plus simple.
Mais il y a un bandeau quand même, là, je vois sur l'écran, là, qui résume, à mon sens, ce qu'il a voulu dire, c'est Omar Sy inquiet de la montée de l'extrême droite.
Oui.
Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'il a voulu dénoncer hier, non? Il me semble.
Oui, mais une référence à un moment.
C'était pas très clair.
Au propos de Marion Maréchal, la maman sur la GPA. Voilà, c'est le seul.
Bon, ceux qui nous empêchent d'avancer, dit-il en France, veulent conserver leur monde de dépassés. Ceux qui nous empêchent d'avancer, je ne sais pas de qui il parle. Je voudrais dire, c'est peut-être aussi ceux qui ont accueilli beaucoup de vagues d'immigration en France et qu'on effectivement ont fait preuve d'humanité bien souvent. Ceux qui nous empêchent d'avancer en France veulent conserver leur monde dépassé. Ils sont en train de vieillir, ils sont à l'agonie. La haine qu'on entend, ce sont les derniers râles de ceux qui appartiennent à une autre époque.
C'est ce que j'appelle personnellement l'enfonçage de portes ouvertes. On ne sait pas de qui il parle. C'est un discours un peu creux, un peu classique sur.
Beaucoup. Et alors évidemment,
il regarde le score de Jordan Bardella chez les jeunes. Peut-être qu'il dira que ce n'était pas le monde du passé qui.
Il est salué par l'extrême gauche. Manuel Bompard, merci Omar Sy pour ses mots et soutien face à la meute raciste. Sophie Bussière, merci Omar Sy pour ces mots si rares. Vous parlez de mots si rares. Je vous jure, mais ce monde médiatique est sidérant. Merci de rappeler où mène l'extrême droite, de rappeler l'histoire. Merci de marteler la nécessité. Mais quelle histoire! Merci de marteler la nécessité de faire groupe face à la haine. Nous avons besoin d'artistes pour dire tout ceci avec résonance, vous embarquer les autres, etc.
Bon, mais c'est un discours quand même général. Je sais bien que c'est un enfoncement de porte ouverte, mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui s'exprime de plus en plus fort. Et ça va également avec un certain nombre de papiers qui disent que beaucoup de musulmans vont quitter la France parce qu'ils se sentent attaqués en raison de l'islamophobie. Donc c'est quand même tout un ensemble.
C'est l'édito de Jean-Michel Apathy d'ailleurs hier dans le quotidien.
Donc c'est pas un hasard. Ce qui se passe, ce n'est pas du tout un hasard. C'est quelque chose qui est vraiment.
Écoutez, on verra ce qui va se passer. Les gens sont matures et pourront.
Qui a fait réagir d'ailleurs Florence Bergeau-Blaclair, qui connaît bien ces questions.
Madame Dati s'est exprimée sur Aya Nakamura ce matin. Et Aya Nakamura, effectivement, pour le coup, qui avait été attaquée pour de mauvaises raisons. Aya Nakamura, ce n'est pas le souci. Me semble-t-il, de la France. Et je pense qu'il faut plutôt défendre Aya Nakamura sur le plan artistique, parce que c'est une jeune femme qui plaît et qui a beaucoup de
talent. On a le droit de la critiquer sans être taxée de raciste aussi.
Oui, mais le talent, forcément, c'est de plaire. Il se trouve que c'est la jeune femme la plus écoutée au monde.
Oui, mais ça,
donc, qu'elle a toute sa place dans une cérémonie. Et vous avez, je répète, vous avez parfaitement raison. Voilà. Mais elle fait partie du paysage culturel et de la chanson française, et même au plus haut niveau, puisque les gens l'adorent, manifestement. Oui. Écoutons Rachida Dati.
Je la félicite pour son succès d'hier, et ça félicite et ça couronne aussi un talent, ça couronne aussi du travail, parce que je pense que le talent est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense que le travail derrière que fournit cet artiste est immense. Donc,
et elle a sa place, potentiellement, si quelqu'un le décidait, au JO.
Mais la réponse est dans la question. Pourquoi elle n'a pas sa place? Non, mais c'est-à-dire que de dire est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle a sa place en France? Non, mais c'est presque. Voilà, elle a sa place. C'est une artiste, une grande artiste, qui a été encore couronnée hier soir.
Elle a franchement, elle a parfaitement raison, Rachida Dati. Elle a parfaitement raison. Elle a toute sa place, précisément, avec d'autres artistes dans cette cérémonie.
Alors, hier, c'était voilà, les Flammes 2024, et elle a eu trois prix à Aya Nakamura, dont celui de l'artiste féminine de l'année.
Bon. Kenji Girac, puisque aujourd'hui on a plus parlé de Kenji Girac qu'effectivement du
discours du président de la République. Mais le Figaro fait trois pages quand même sur le discours de Macron.
Mais j'ai dit pas la une. Mais vous savez ce qui fait le plus sens?
Il y a une accroche à la une.
Ce qui fait le plus sens, c'est-à-dire qui me paraît complètement.
La longueur.
Le Parisien fait la une aussi de
1h50.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est la une du Figaro.
1h50. Oui. Comment vous pouvez infliger aux gens un discours d'1h50?
Je ne pense pas que ce soit en direction des gens que le discours a été prononcé, parce que c'était à la mi-journée, les gens sont au travail, ils ne sont pas devant leur télévision.
C'était pour lui-même alors?
Non, c'était pour les autres chefs d'État européens, c'était pour prendre date, pour que dans les années qui viennent...
Et qu'est-ce que vous avez retenu?
Moi j'ai retenu qu'il est plus européen que jamais.
Oui.
C'est sa cohérence.
Il dit en 10 secondes, il est fédéraliste.
Non, parce qu'il a détaillé dans chaque sujet, dans chaque domaine,
il aimerait l'être, mais
l'avenir de l'Europe tel qu'il le voit. Moi, personnellement, je suis très européen. Je trouve qu'il a sa vraie cohérence quand il parle de l'Europe. Et ce qu'il a dit hier me convient tout à fait. Il faut aller vers plus d'intégration européenne. Alors, le mot qui fait peur, qui vous fait peur ici, je le sais, c'est le mot fédéralisme. Mais le fédéralisme, c'est à très long terme qu'on verra si l'Europe devient fédérale. Il faut, dans certaines compétences, pousser l'intégration européenne, y compris par cercle concentrique, sans qu'on soit obligé de mettre les 27 pays dans les mêmes compétences intégrées.
Ça existe.
Il faut... Non, ça existe. Une Europe à géométrie variable.
Écoutez, moi, le discours, il n'est pas nouveau.
Madame Rambert.
Il se trouve que j'ai écouté le discours hier soir en m'endormant. Je n'ai pas pu l'écouter pendant la journée. D'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est un excellent somnifère. J'ai très bien dormi, j'ai dû le réécouter ce matin. Il parle de l'Europe, du continent européen. Très peu des Européens. C'est-à-dire que le peuple est une abstraction, on ne connaît pas, mais par contre l'Europe, des grandes idées, et il est totalement déconnecté. Si le discours avait pour but aussi de booster un petit peu l'élan de Mme Hayé, qui est très en panne, eh ben, je crois que c'est raté. Et Macron, c'est son problème. Après, il dit aussi, on a l'impression qu'il réalise des choses, quand il dit il faut vraiment qu'on soit ferme, parce que les États-Unis et la Chine ne respectent pas les accords commerciaux. Mon Dieu, quelle révélation. Il ne les respecte pas depuis des années. Mais là, ça y est, on donne un coup de menton parce qu'à 6 semaines des élections, on se rend compte que aïe, il y a danger. Non, c'est pas... Je ne sais pas qui a voulu faire plaisir, pas aux gens. Et je pense qu'il est passé sous les radars des Français, ce discours. Hein. Personne ne l'a entendu.
Oui, ça, je pense qu'effectivement...
Moi, je retiens une chose. Pardon, je retiens...
D'ailleurs, il n'y a pas une phrase qui... Il y a une phrase qui
L'Europe est mortelle.
L'Europe est mortelle.
Oui, ils ont
mais
faire
moi, mais les ce qui est terrible, c'est que cette phrase, elle devient... En fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la France, c'est la France qui va mourir.
Eh oui.
C'est ça que les autres ont retenu. L'Europe est mortelle. Oui, monsieur le Président, mais la France aussi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace.
La seule chose que j'ai retenue, parce que les mots, c'est bien, mais les propositions aussi, on peut regarder. Or, la seule proposition, André Vallini, que j'ai entendue, c'est celle d'avoir recours pour investir, pour répondre à tous les défis, à un emprunt européen. Or, l'actualité est taquine, parce qu'il parle d'emprunt européen au moment où, dans quelques heures, on attend de savoir, nous sommes suspendus en raison de nos emprunts faniques que nous avons faits, de savoir si la note va être dégradée ou pas. La note de la France, par Moody's, va être dégradée ou pas.
Et elle le sera peut-être ou pas, mais de toute façon, visiblement, il nous ménage quand même.
Non, mais ce que je veux dire par là...
Que je comprends, elle devrait être dégradée depuis bien longtemps, en fait.
Non, mais... Qu'est-ce que ça signifie, souveraineté européenne, à partir du moment où vous avez recours à cet emprunt et vous êtes pieds et poings liés devant des petits hommeries
américains? Vous avez raison de rappeler, de dire la France est mortelle. D'ailleurs, je souligne au passage que quand Éric Zemmour dit la France est mortelle, on l'accuse de dramatiser, d'être un déclinologue. Mais quand on dit l'Europe est mortelle, c'est merveilleux, que c'est une profondeur d'esprit, de la justesse, etc.
Vous parlez des institutions.
Je voudrais rappeler une chose, c'est que la bureaucratie, s'il y a une chose qui est mortelle, c'est la bureaucratie. Donc je pense que ce sera la dernière chose qui mourra, ce sera l'Union européenne, parce que la bureaucratie, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Et c'est quelque chose qui est impossible à défaire et qui ne fait que grossir. Moi, je pense que le fédéralisme européen est une immense erreur et que, justement, le problème de l'Europe, de l'Union européenne, c'est qu'elle veut se calquer sur les États-Unis d'Europe. le modèle, c'est les États-Unis. On voit à quel point la démocratie américaine est bloquée aujourd'hui parce que justement, institutionnellement, elle est en proie au lobby. Elle est complètement incapable de produire le moindre consensus et on est en train de se diriger vers ça. Et moi, je pense qu'on perd justement la force de l'Europe, c'est d'être constituée d'États-nations qui peuvent être justement souples et beaucoup plus efficaces dans la mondialisation. On est en train de construire un paquebot indirigeable.
Alors,
et
je voudrais qu'on l'écoute.
Encore d'autres gens, d'autres pays dans l'Union européenne, c'est une catastrophe.
Je voudrais qu'on écoute le président Macron et notamment sur l'immigration. Parce que, a priori, et je ne crois pas dire de bêtises, 5 millions d'immigrés seront entrés sur le sol de France légalement.
Légalement.
À la fin de son mandat. 5 millions.
Par définition, les clandestins, vous n'avez pas d'idée précise, chiffrée.
Donc, combien ce sont des gens qui entrent sur le territoire qui ne sont pas français. Donc, ils ne sont pas comptabilisés dans la population française. Nous sommes d'accord. C'est 5 millions.
Après, il peut y avoir des régularisations, vous savez.
Il peut y avoir des régularisations.
Quelqu'un entrera en 2017, peut-être sera-t-il français en 2027. Hein.
Nous sommes d'accord, mais a priori, c'est 5 millions. C'est pour ça que...
D'ailleurs, quand vous discutez avec des anciens ministres de l'Intérieur, notamment Brice Hortefeux, il vous dit que la première chose à faire, c'est de bloquer l'accès à la nationalité française. Donc, parce qu'une fois que quelqu'un est français, terminé.
Bon, donc parce que je voyais sur les réseaux, certains disent qu'on est toujours à 67 ou 68 millions. Et... Non, mais ces gens-là ne sont pas comptabilisés dans la population française, par définition.
Non, mais le solde. Sur les 5 millions, il y en a qui sont sortis.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup qui sont sortis, qui sont rentrés.
Alors,
les étudiants notamment.
Donc il est en place quand même depuis 7 ans, Emmanuel Macron. Bon, en place depuis 7 ans. Et écoutez ce qu'il nous dit. C'est là que tu te dis, mais il nous prend pour des imbéciles. Puisqu'il dit qu'il faut réguler les frontières, alors que depuis 7 ans, il est incapable de le faire.
Et c'est impossible.
Donc écoutons le président Macron.
L'Europe puissance, c'est aussi une Europe qui maîtrise ses frontières. Je le disais en parlant de l'adoption du pacte asile et migration, qui a été une avancée majeure. Mais je le redis, dans un moment où nous le savons tous, cette question des frontières, de l'immigration, bouscule toutes nos sociétés, notre pays, de manière légitime. C'est encore plus important pour la France. Et donc oui, chez nous, plus qu'ailleurs sans doute, il nous faut une coopération européenne plus forte. C'est pourquoi, après ce pacte asile-immigration, maintenant il va falloir le mettre en œuvre, parce qu'il nous offre des instruments inédits que nous n'avions pas. L'enregistrement, le suivi et des conditions de retour vers le pays de première entrée plus efficaces. C'est déjà une avancée inédite. Mais nous devons agir avec plus de fermeté en matière de retour et de réadmission pour toutes les femmes et les hommes qui arrivent sur notre sol et qui n'ont pas vocation à rester, qui ne sont pas éligibles à l'asile.
Donc là, on trouve également un point de psychologie d'Emmanuel Macron. Ce n'est jamais de sa faute. Il exclut en tout sa responsabilité sur les faits. C'est-à-dire qu'il t'explique que c'est Schengen qui fait qu'il y a plus d'immigration. Il n'y est pour rien. Ça, c'est un point très important de psychologie. C'est-à-dire que c'est un homme, il n'est responsable de rien quand il y a un échec.
Et surtout, vous avez raison, Pascal, d'autant plus que son ton change quand il parle de la France, des problèmes français. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'envolée lyrique quand il parle de l'Europe. Et on sent quelqu'un lui dire qu'il faut quand même dire un mot sur la France, sur la sécurité, tu ne peux pas laisser passer ça. Le ton change. Dans l'analyse du paraverbal et non-verbal, il se touche le nez quand il commence à parler. Ça veut dire qu'on ne va peut-être pas dire la vérité, qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on dit. Donc, le ton n'a pas. Il n'y a pas la même envolée.
Ça, non, mais c'est vrai, je savais pas que quand se touchait le nez, je ne veux plus me toucher le nez parce que bon, je ne
Non, mais il ne le fait pas pendant tout le discours et là il fait ça et puis il nous dit le ton n'est pas le même et on sent que c'est pas sincère. Il n'est pas sincère.
Excusez-moi, il dit il faut améliorer les reconduites. Mais enfin, c'est l'homme qui a promis 100% d'OQTF dans les colonnes de valeurs actuelles et qui est à 10% aujourd'hui. C'est quand même un échec cuisant.
Pardon Pascal, mais moi je pense que ça va être très très difficile de trouver un consensus en matière migratoire à 27. C'est impossible parce que vous avez des pays qui n'ont pas la même géographie. L'Italie par exemple et touche quasiment l'Afrique, donc elle reçoit énormément de migrants. Comment voulez-vous convaincre des pays comme la Hongrie qu'il faut accueillir des migrants et les répartir sur l'ensemble du territoire alors qu'ils n'en ont pas ? C'est impossible. C'est impossible de s'accorder à 27 sur ce sujet, tout simplement parce que nous n'avons pas la même géographie. Et la géographie, ça compte. L'Europe n'est pas une abstraction. Il y a des pays qui sont en proie à des vagues migratoires, d'autres qui ne le sont pas, et on ne voit pas au nom de quoi ceux qui ne le sont pas accepteraient des migrants.
Au nom de la solidarité.
Mais non, mais ça ne marche pas. La solidarité, mais non.
Si vous pensez, Eugénie,
si vous pensez vraiment que le peuple hongrois, que les dirigeants hongrois vont accepter de,
oui, mais il faut qu'ils acceptent.
Plus le temps passe,
ils le feront pas.
Plus Emmanuel Macron,
ils prendront l'amende.
Ils vont défendre leur peuple.
Les dirigeants, parfois, que je vois dans des entreprises, qui sont complètement dans l'abstraction, qui font des PowerPoint et des tableaux Excel, qui sont complètement déconnectés du sens. Du bon sens populaire, évident.
Pascal,
ce que dit Eugénie est vrai.
Cher Pascal.
En fait, ça ne marche pas ce que vous
bon
voulez dire.
Populaire.
Allez dire à monsieur Orban.
La solidarité,
Orban
ça ne marche pas. Les bons sentiments ne guident pas le peuple.
Mais vous croyez. Est en difficulté.
Monsieur Orban, vous.
Monsieur Orban est en difficulté, il risque de perdre les prochaines élections. Hein, regardez ce qui s'est passé en Pologne.
Je ne parle pas que de la Hongrie, je parle de tous les pays de l'Est, la Pologne.
La droite nationaliste a perdu les élections en Pologne, elle va les perdre en Hongrie.
Oui, alors sur quoi ? Sur un scandale de faux visa.
Le bon sens populaire.
Sur un scandale de visa.
Pascal.
Elle est bonne celle-là.
Pascal Pro, le bon sens populaire, dans la rue, chaque fois que je rencontre les gens, tout le monde est d'accord pour dire que face aux défis climatiques, aux défis terroristes, aux défis migratoires, aux défis numériques, aux défis commerciaux face à la Chine, tout le monde, le bon sens populaire, tout le monde est d'accord
pour dire
que
commun,
l'Europe sera puissante et pourra résister et maîtriser ses enjeux, plutôt que l'Italie dans son coin, l'Espagne dans son coin, la France dans son coin. Il est évident que la puissance aujourd'hui, elle ne peut être qu'européenne face à tous les défis.
Personne ne dit qu'il ne doit pas y avoir d'accords commerciaux entre les
pays. De l'idéologie.
Non, pas du tout. L'idéologie, c'est le fétichisme. Le fédéralisme, c'est de l'idéologie. Je suis désolée. Personne ne dit qu'il ne faut pas avoir d'accords commerciaux, qu'il ne faut pas un protectionnisme européen, qu'il ne faut pas avoir des accords numériques. Je ne vois pas pourquoi cela impliquerait un saut politique qui serait fédéraliste. Et qui enserrait aussi notre capacité.
Le mot fédéraliste, c'est pour faire peur à tout le monde que vous
utilisez. Mais justement, il n'ose pas le dire. Mais c'est bien ça qui est derrière.
Non, il n'a pas utilisé
le mot fédéraliste. Parce qu'il sait que c'est un mot qui fait peur.
Il n'a pas dit une seule fois.
Mais c'est comme le Brexit, ça fait peur. Mais c'est ce qui est derrière.
L'intégration européenne, plus d'intégration, plus de solidarité. Si vous êtes contre ça.
Ingouvernabilité.
Cher André, là où je me permets d'intervenir, personne n'est pour ça. Et la preuve, c'est qu'aucun dirigeant politique ne propose de sortir de l'Union européenne.
Voilà.
Aucun. Donc tout le monde considère que l'Union européenne est une bonne chose en soi.
Ne veut plus
bien
en
sûr. Donc il y a plein
avant de faire davantage d'intégration, il faut réformer.
C'est pas ce qu'on dit.
Ce qui ne fonctionne pas dans l'Union européenne.
Mais je pense que les Français n'ont pas. Ils ont appris une chose du mandat Macron. Une chose essentielle. Tout se passe à Bruxelles. Voilà. Tu ne peux plus rien faire. Et que fait le président ? Il attaque le sociétal à travers une loi sur l'IVG, à travers une loi sur la fin de vie, parce qu'en fait, il ne peut plus rien faire. Donc tout le monde a compris ça. Il ne reste plus que le sociétal.
Mais est-ce qu'on peut revenir
sur ça ? Je pense que les Français ne sont pas forcément d'accord là-dessus.
Est-ce qu'il est possible de revenir deux secondes sur l'immigration ?
Oui. Parce
que sur la question de la solidarité.
Il est 9h25.
La question de la solidarité, je crois que la France, elle remplit très très largement. Et que justement, si nous étions à l'étiage des autres pays de l'Union européenne, nous n'accueillerons pas, nous ne serions pas condamnés à accueillir autant d'immigrés sur notre sol.
Déjà, si on avait la même fiscalité en Europe, ce serait pas mal. Mais là, j'ai l'impression...
C'est infaisable, les salaires ne sont pas les mêmes.
On est très en retard, là. Il est 9h25, Marine Lançon. Marine ? Ah oui. Mais il est 9h25, théoriquement. Et nous sommes avec notre ami Toumaïl. Non, vous ne m'avez rien dit, justement,
Marine. Mais oui, mais je vous salue, j'attendais sagement.
Non, elle ne m'a rien dit. Ou alors, non, vous n'avez pas dit Marine. Bon. Toumaïl, tout va bien. Je parle à l'oreillette, quoi. Je réponds plus exactement. Tout va bien ?
Tout va bien, on est juste très en retard.
Ah bah oui, vous êtes sur Europe 1 jusqu'à 11h. À tout à l'heure. Et nous, on marque une pause parce qu'on est en retard. On pourra parler de Kenji Girac, bien sûr, et puis revenir sur, évidemment, les mots d'Emmanuel Macron. On écoutera également ce qui se passe dans les universités américaines. Et tout à l'heure, on recevra... Alors, restez avec nous, Philippe Val. Parce que le plus important, c'est le rire. Il est formidable, son bouquin.
Oui.
Absolument formidable. Et c'est vrai que le rire... On dit beaucoup et que souvent, aujourd'hui, c'est... Est-ce que le rire est de droite ?
Mais pas du tout.
Ah bon ?
Le rire est propre de l'homme.
Oui, d'accord.
Le nom de la rose.
Oui.
La pause et on revient tout de suite.
Propre de l'homme de droite.
Mais non, pas du tout, de gauche, de droite.
9h33, Soumaïa Labidi nous rappelle les titres du jour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Sciences Po encore bloquée ce matin. Nouvelle manifestation pro-Gaza au sein de l'établissement parisien, comme vous pouvez le constater sur ces images. Une cinquantaine d'étudiants a occupé le bâtiment hier soir et la veille, il a fallu l'intervention des CRS pour mettre fin au rassemblement. L'épilogue dans l'affaire Kenji Girac, il voulait, je cite, « simuler un suicide pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute ». C'est en tout cas ce qu'a déclaré le procureur de la République de Montmarsan au lendemain de l'audition du chanteur. Et puis une des condamnations d'Harvey Weinstein pour viol annulée par une cour d'appel de New York en cause de graves erreurs du juge, notamment en laissant témoigner plusieurs femmes sur des faits prescrits. Le producteur déchu aura droit à un nouveau procès, mais reste condamné pour les mêmes faits en Californie.
Merci Soumaïa. On a terminé, je pense, sur le discours d'Emmanuel Macron. La chose qu'on n'a pas dite, c'est que beaucoup, effectivement, soulignent qu'il est entré dans la campagne et qu'il se sert de son temps
et
de parole.
Les oppositions ont saisi l'organisme qui gère les comptes de campagne pour essayer de mettre le coup de ce discours dans la campagne de Valérie Ayer, puisqu'effectivement, c'était plus un discours de directeur de campagne, aussi de président. Il l'avait fait déjà quand il est arrivé à l'Élysée en 2017. Mais totalement, le but de ce discours était d'entrer dans la campagne pour les européennes. Et comme on le disait à l'instant, pas sûr que ça fasse gagner ne serait-ce qu'un point. Ça pourrait peut-être
mais
même
la
leur faire
question,
perdre.
La question se pose à chaque Valérie mandat. Ayer. Tous les présidents entrent à un moment donné dans la campagne. Et à chaque fois, on dit au pinaille, est-ce qu'il faut l'enlever autant de paroles du candidat de son
voilà, camp. C'est un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. Il y a quand même tous les...
Alors,
voilà,
il peut dire, aïe, c'est fait.
Il y a un appel de 50 personnalités pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne.
C'est très important, ça.
Oui, c'est important. En novembre 2023, une résolution. Parce que, oui, tu fais ça en loose day.
C'est ça le problème.
Tu fais ça contre les peuples.
C'est vraiment en loose day.
C'est vraiment en loose day. Donc, en novembre 2023, une résolution du Parlement européen a proposé de modifier les traités pour généraliser la règle de la majorité qualifiée. Puis une résolution semblable a été adoptée à l'Assemblée nationale. 50 personnalités, dont Arnaud Montebourg, Michel Onfray, appellent à organiser un référendum sur ce sujet qui engage la souveraineté de la France.
Rappelons que la majorité qualifiée fait que, par exemple, si la France n'est pas d'accord sur un point, mais il y a une majorité des pays européens qui sont d'accord sur ce point-là, le peuple français n'aura pas voix au chapitre et pourra se voir imposer des décisions qu'il n'a pas décidées. C'est absolument antidémocratique.
Mais avec ce procédé, on imagine sur le nucléaire, ce qui aurait pu advenir.
Je rappelle quand même, et c'est important de le dire, que le président de la République est garant de l'indépendance nationale. C'est le deuxième alinéa de l'article 5 de notre Constitution. Et ça s'appelle la souveraineté nationale.
Est garant de la protection des peuples, de la sécurité des peuples, plein de choses sur lesquelles il est défaillant.
Il n'y a pas de souveraineté européenne, simplement parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des intérêts différents. Différents pays qui ont des intérêts différents, qui peuvent converger sur certains points, mais qui divergeront immanquablement sur d'autres, notamment la question migratoire.
Alors, je vous lis quelques extraits de la tribune. D'année en année, la devise « Unie dans la diversité » a cédé sous une centralisation uniformisatrice, effaçant les identités et les souverainetés nationales, tournant le dos à ceux qui la fondent. L'Union devient un carcan normatif où l'état de droit n'est brandi que pour justifier l'extension sans limite d'un système autoritaire. André Vanini, c'est Arnaud Benedetti, c'est Stéphane Rosès, c'est Arnaud Montebourg, c'est Marcel Gauchet, c'est Michel Onfray, c'est Florence Bergeau-Blaquer. C'est pas n'importe qui.
Non, mais il
n'y
a pas de surprise. On sait que ce sont des eurosceptiques. Je respecte tout à fait leur tribune. Ils sont sceptiques.
Mais c'est pas des eurosceptiques.
Mais c'est pas une injure de dire eurosceptiques.
Mais c'est pas vrai.
C'est pas une injure.
Mais c'est pas vrai.
Ils sont sceptiques sur l'avenir de l'Union européenne.
Ce n'est pas vrai.
Ils sont réticents à l'idée d'intégration européenne. C'est leur droit. Je respecte leur position.
Ils ont des bonnes raisons d'être
sceptiques. Ils ne veulent pas de cette Europe-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont eurosceptiques.
Ils veulent moins d'Europe, moins d'intégration européenne.
C'est quoi l'Europe ?
Ils veulent de la souveraineté nationale.
La souveraineté nationale.
Vous n'en voulez plus.
André Vallini, est-ce que vous pensez...
C'est qu'il y a un principe de réalité face aux empires...
Et vous n'en voulez plus.
Face aux empires chinois,
américains. Mais dites-le.
Il faut s'unir.
Et bah dites-le.
L'union fait la force.
Et bah dites-le.
On gardera sa culture française, son identité française, son amour français pour l'histoire.
Dites-le.
Moi, j'aime la France, j'aime l'histoire de France, j'aime la culture française. Il y a une culture française, une histoire de France qui n'a pas commencé en 1789. J'aime tout ça. Mais en même temps, je suis réaliste et je pense que face à la Chine, à la Turquie, aux États-Unis, à la Russie, il faut s'unir. L'union fait la force.
Mais moi, je pense l'inverse. Moi, je pense que dans la mondialisation aujourd'hui, on a besoin d'efficacité et d'être souple, efficace et rapide. Et que le paquebot européen avec 27 pays qui ont du mal à s'accorder parce qu'ils ont des intérêts divergents, ça nous ralentit, ça nous freine. On est incapable de prendre des décisions justement rapides. On est incapable de s'accorder sur des urgences, comme par exemple la question migratoire. Nous n'y arriverons pas. Et ça va nous tuer. Ça va nous tuer justement.
Plus d'intégration.
Vous avez raison. Plus d'intégration. Parce que plus d'intégration, c'est plus de lourdeur administrative.
Mais non, ceux qui veut, oui. C'est que la France expédie les affaires courantes et qu'il y ait un gouvernement européen qui décide.
Mais c'est impossible. À 27,
ça,
on ne peut pas décider.
Et pourquoi pas, je suis comme Jacques Delors pour une fédération d'États-nations.
Mais ce serait une horreur. Franchement, voyez les États-Unis. Allez. Les États-Unis sont une démocratie bloquée.
C'est ça qui veut. Bon. Avançons. Intention de vote aux élections européennes. Jordan Bardella est à plus de 30%. Madame Ayer est à 18%, le Parti Socialiste est à 13%, la France Insoumise à 8%. C'est le rolling.
Aujourd'hui, c'est le scénario optimiste pour la majorité. Oui. Terminée deuxième au score qu'elle affiche là, Valérie Ayer, c'est le scénario optimiste. D'ailleurs, tout le monde est en train de se faire la guerre chez Renaissance pour avoir une place éligible, parce que tout le monde se rend bien compte qu'il y en aura moins que la dernière fois avec Nathalie Loiseau, et pour essayer de
sauver
son siège.
Parce que la liste, elle n'est pas faite encore.
Ah, la liste n'est pas faite, et les tractations vont bon train au siège de Renaissance, parce qu'il y en a beaucoup qui
veulent... Qui est numéro 2 de la liste?
Ah ben, on ne sait pas. C'est pas fait.
à 6 semaines de...
Bah, sauf si vous, si vous l'avez, ça serait un scoop.
Bon. Les agences de notation, les verdicts de printemps des agences de notation sont attendus ce soir. Ça fait bien longtemps que la France devrait être dégradée. Pour plein de raisons, elle ne l'est pas. Parce que les agences sont plutôt gentilles.
Là, ça serait très étonnant si on échappe, si les deux agences nous épargnent cette fois.
De toute façon, ça ne change rien.
Si, ça fait augmenter les taux d'intérêt.
Bah oui.
Et donc les impôts des Français vont servir encore plus à payer la dette.
Il y aurait des conséquences politiques uniquement, et ça serait instrumentalisé par les oppositions. Mais
enfin, ça serait terrible pour le président de la République et pour Bruno Le Maire.
Oui, mais c'est déjà terrible. Le bilan, il est effrayant.
Ça rajoute au mauvais bilan. Oui.
Le bilan est effrayant.
Ah, pour un Mozart de la finance, c'est sûr que c'est pas terrible.
C'est 1000 milliards en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est effrayant. On est toujours le pays où les prélèvements européens, les prélèvements obligatoires sont les plus importants. 7 ans après son arrivée.
Et vous savez ce que ça va changer aussi ? À la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, la première dépense de l'État, avant les hôpitaux, les écoles, les fonctionnaires, les retraites, ça sera de payer les intérêts de la dette.
Ben oui.
Voilà. Donc si les intérêts augmentent, en plus, ça va arriver plus tôt que prévu.
Bon, il reste 3 ans. Sciences Po, une énième mobilisation à Sciences Po. Quelques dizaines d'étudiants mobilisés en faveur des Palestiniens ont décidé d'occuper un nouveau bâtiment. C'était hier soir, cette fois-ci, au lendemain d'une évacuation par la police d'un autre site de l'établissement. Ministre de l'enseignement supérieur ne réagit toujours pas. Pourquoi ces jeunes gens ne sont-ils pas virés de Sciences Po ? En fait, je vous pose une question pour des raisons disciplinaires. Pourquoi ces jeunes gens qui, la nuit, occupent Sciences Po ne sont-ils pas mis en dehors du cursus ?
La drague.
Non mais enfin, il y a un moment, ça, personne, ça vous choque pas ?
Ça serait utilisé politiquement tout de suite, notamment pour la
drague. Enfin, ils ne sont pas là, ils sont là pour étudier, ils ne sont pas là pour occuper les locaux la nuit.
Vous savez, c'est presque une tradition à Sciences Po de l'occupation des locaux. J'imagine que ce n'est même pas prévu dans les textes réglementaires de virer quelqu'un pour...
Après la fermeture à 21h des grilles, environ 80 étudiants étaient dans la rue, encourageant et apportant des oreillers et denrées aux étudiants restés à l'intérieur des locaux, après le vote d'une nouvelle occupation décidée lors d'une assemblée générale de 50 à 70 étudiants susceptibles d'être présents dans ce bâtiment. Moi, je suis partisan de la solution Reagan avec les aiguilleurs du ciel. Ils avaient tous viré.
Oui, tous virés, ouais.
Ce qui est important, c'est qu'ils aient
été virés. Ils en avaient viré 11 000.
C'est qu'ils aient été virés du hall quand même. Ils ne l'occupent plus. La police est intervenue. C'est la deuxième fois. C'est bien ça. Ça, c'est bien.
Et heureusement. Vous savez, faire sortir 70 étudiants qui occupent de façon illégale la nuit, on dirait sinon.
Non, mais c'est déjà pas mal.
Écoutez, surtout, il faut absolument qu'un directeur de Sciences Po ferme soit nommé. Je rappelle que là, il n'y a pas de directeur de Sciences Po, que c'est en négociation actuellement. Et apparemment, il voudrait nommer une femme, parce qu'évidemment, c'est le quota, parité, etc., ce que je trouve absolument ridicule. Et je pense qu'il faut veiller à avoir un directeur de Sciences Po qui reprenne les choses en main.
Une femme hériterait d'une situation catastrophique. Donc, on va faire la parité au moment où c'est ingérable. Tenez.
Non, mais pour
j'ai une image en direct.
Valeurs,
je connais le numéro 2. Hein.
Dominique Reynier, par exemple.
Non.
Bah Bernard Guetta, c'est celui qui tient la corde. C'est le numéro ce matin.
C'est pas lui.
Alors, c'est qui le numéro
2 ? Gilles Boyer.
Ah, Gilles Boyer. Il est eurodéputé sortant, proche d'Edouard Philippe.
Numéro 2, a priori. C'est numéro 2 de la liste.
Directement, vous avez Edouard Philippe dans l'oreillette ou Valérie Ayé ?
J'ai des amis.
C'est une amie.
J'ai des informateurs qui m'ont dit.
Vous vous souvenez de qui était l'ancien numéro 2 ? La dernière fois de Nathalie Loiseau.
C'était qui ?
Pascal Canfin.
Ah ben Pascal Canfin, oui, alors lui, c'est un
alors,
bon choix.
Il devrait rester sur la liste, mais pas à la place de numéro 2 après la...
Bon, là, a priori, Gilles Boyer, c'est une possibilité. On va dire que c'est une possibilité.
Si c'est Gilles Boyer, déjà.
Si c'est Gilles Boyer...
Si c'est Gilles Boyer, c'est une façon pour Macron d'essayer de ramener Édouard Philippe dans le giron de la majorité.
Ah, ça ne nous a pas échappé.
Oui. Ah, oui.
Évidemment, puisqu'il est proche d'Édouard Philippe, bien évidemment.
Ah, ben, c'était son plus proche conseiller, collaborateur depuis longtemps, ils ont écrit des livres à deux. Et vu que Valérie Ayé, le soir du 20h de TF1, elle a appelé Gilles Boulot, Gilles Boyer, ben voilà.
Bon, vous voyez, c'était un lapsus déjà.
Révélateur.
Bon, il y a une image en direct, ça, c'est une image en direct de Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Et
quelle honte.
Voilà, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Sciences Po. Mais bon, c'est. Le feuilleton Sciences Po, il est extraordinaire, en fait.
Ça n'arrête pas.
Mais c'est normal, puisqu'il n'y a aucune sanction de prise.
Bien sûr.
C'est-à-dire que Gabriel Attal, il est allé une fois, il a fait. Bon, il a eu raison d'y aller. Mais c'est un feuilleton Sciences Po.
Mais ça au moins ce blocage, il est égalitaire parce que avant c'est les étudiants juifs qui ne pouvaient pas rentrer dans les amphis. Là désormais c'est tout le monde.
Oui. Mais bah écoute, tu leur dis de, tu prends, tu
fais. Non, c'est scandaleux.
Je trouve ça extraordinaire moi. Bon, les universités américaines, la tension monte, montée des tensions dans les universités américaines, on le sait. Après les violences à Columbia, les manifestations pro-palestinienne s'intensifie et je vous propose d'écouter Donald Trump qui s'est exprimé sur ce sujet.
Si vous regardez les manifestations dans les universités dans tout le pays et au-delà des universités, car cela a lieu dans d'autres endroits aussi, vous voyez ce qu'il se passe avec la Palestine et Israël, et les manifestations et la haine, la colère, Biden envoie un message absolument horrible. Il y a des manifestations partout. Joe Biden parlait de Charlottesville. Charlottesville, c'était des cacahuètes. Ce n'était pas le type de haine qu'il y a ici. C'est une haine immense.
Bon, on en a beaucoup parlé, rien de neuf à dire sur ce qui se passe dans les universités, qu'elles soient en France ou aux États-Unis.
La seule chose, c'est quelle communauté doit en permanence être protégée d'un conflit qui se situe à des milliers de kilomètres du pays dans lequel se trouve cette communauté. Quelle communauté dans le monde ? Une seule. Une seule. Voilà, la communauté juive.
Évidemment.
En France comme aux États-Unis.
Je voulais faire donc un petit parallèle avec ce qui se passait à Sciences Po, mais nous allons venir évidemment en France avec Kenji Girac et ce procureur donc, qui hier a donné plein d'informations sur la vie
privée. Un heure de gloire à Mont-de-Marsan.
Je trouve ça là aussi assez étonnant, mais bon. Audrey Berthaud, voyez le sujet.
Une tentative de suicide ratée ou une simulation de suicide, ce sont les conclusions du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Pendant plus d'une heure, il est revenu sur le déroulé de la nuit du drame. Selon lui, Kenji Girac aurait simulé un suicide pour faire peur à sa femme.
Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il l'a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a, à son tour, voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide.
Interrogé également, sa compagne aurait affirmé aux enquêteurs que le chanteur était dépendant à l'alcool et à la drogue.
Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer. Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Fortement alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants ce soir-là, il aurait donc pointé l'arme sur lui. Selon le procureur, un tir accidentel est jugé impossible et un tir effectué par un tiers n'est pas compatible avec les constatations. Les deux hypothèses restantes ne relèvent pas du pénal. Cette procédure devrait donc se terminer par un classement sans suite.
Et écoutez Georges Fenech qui réagissait hier sur la prise de parole du procureur de la République.
Ce que j'en ai retiré, c'est qu'effectivement, il y avait un besoin de communiquer. Pour une fois qu'un procureur communique, on ne va pas non plus le critiquer de ce point de vue-là. Souvent, on dit le contraire. On attend des communications.
C'est vrai.
Donc, il l'a fait. Il l'a fait aussi avec une pointe, j'ai trouvé, d'empathie, ce qui n'enlève rien à la narration de des faits, d'une part. Mais j'étais un peu quand même un peu surpris de voir jusqu'où il allait dans le détail de la vie privée. De l'intéresser avec son épouse sur sa tendance à l'alcoolisme, aux produits stupéfiants, qui relève quand même, surtout que l'affaire va être classée maintenant, hein, c'est un classement sans suite, il l'a annoncé, hein, classement sans suite, en opportunité d'ailleurs, parce qu'il pourrait le poursuivre pour détention d'armes ou usage de stupéfiants, mais en opportunité, on comprend tous, Kenji étant miraculé dans cette affaire de suicide raté ou peut-être de faux suicides, ça, on ne saura jamais.
C'est vrai. On ne saura jamais.
C'est un peu étonné. Bah, qui donne des détails sur la vie privée de Kenji Girac, je trouve pas ça choquant. Il y a une curiosité, une interrogation autour de cette affaire. Moi, ce qui est aberrant, c'est la durée de cette intervention. Dire, si on voulait s'endormir hier soir, il y avait son discours, et c'est de Macron, il fallait choisir. Non, qui donne des informations, tout le monde se demande, tout le monde partage un petit peu des suspicions sur les circonstances de cette affaire, malgré ce qu'on nous en dit. Voilà. Après, Kenji Girac, il n'est pas le seul qui a une chouette image publique, je le disais tout à l'heure, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et qui a probablement, comme d'autres, une part sombre et une image privée qui n'est pas du tout la même que celle de son image publique. Moi, j'ai dirigé un magazine, on passait notre temps à essayer de camoufler les travers des personnalités ultra populaires pour ne
C'était
pas...
quel magazine ?
C'était Télestar, que j'ai dirigé pendant pas mal d'années. Et il y avait même un jour, je vais raconter, je vais pas dire le nom de la personne qui n'est plus de ce monde maintenant, une grosse personnalité française, un de mes journalistes va l'interviewer, type très populaire, extrêmement sympathique, une image parfaite dans la vie. Un sale con, pardonnez-moi l'expression. Un de mes journalistes va l'interviewer et comme d'habitude, il se comporte pas bien, il l'accueille avec une heure de retard, le mec l'interview se passe pas bien et mon pauvre journaliste qui était un petit peu jeune rentre tout défait, me dit il a été méchant avec moi, il a fait ci, il a fait ça. Et pour la première fois, j'ai dit, tu sais quoi, raconte-le. Et donc on a raconté l'interview telle qu'il s'est passée, qu'elle s'était passée, en disant qu'il est arrivé une heure en retard, qu'il était odieux, qu'il répondait pas. Il était mais furieux parce que ça a cassé son image. Donc évidemment, moi j'ai eu, en tant que rédacteur en chef, un tombereau d'insultes au téléphone.
Évidemment, tout le monde
se et je lui dis, écoutez, oui. La prochaine fois, comportez-vous bien dire, avec les petits là, et arrêtez de mentir Madame à
Robert,
la télé.
Là, c'est pas juste.
Oui, appelez Catherine.
Je vais vous dire pourquoi c'est pas juste. Parce que dès que l'émission va se terminer, on va tous vous demander qui c'est et vous nous le direz. Et les gens qui sont dans leur poste, ils le sauront pas. C'est pas bien.
Mais surtout que c'est public, vous avez fait l'article, donc j'imagine qu'on peut le retrouver, donc on peut
c'est
le savoir.
Roger. Voilà, c'est à son âme. Roger Hanin, qui avait une image.
Il est
très populaire.
Ah, il était pas sympa, Roger Hanin.
Et ben voilà, Roger Hanin. Alors j'espère que je vais être attaqué par les descendants de Roger Hanin maintenant. On m'a mis en difficulté.
Moi je l'aimais bien, Roger Hanin.
Ah, ben, en plus, il y a le grand pardon qui passe sur C8 dimanche soir.
Ah oui, alors là, je suis
déçu. Et il avait une image d'une faconde, d'un type, voilà. Et ben il était pas sympa et j'ai fait le pays comme et ça.
Ben, je suis.
Autant vous dire que TF1 était furieux. Et que voilà. Mais à mon avis, on peut pas laisser les gens cultiver une image publique parfaite et être méprisant avec les petits journalistes.
C'est vrai que là où vous avez raison, ça c'est vrai. Et parfois, je suis assez d'accord avec vous. Et il y a beaucoup de journalistes donneurs de leçons sur les antennes que je connais. Et comme on est tous passés dans les mêmes rédactions, on sait qui est qui.
Voilà.
Et on sait tous qui est gentil, pas gentil.
Idem pour les personnalités.
Pascal, je pense qu'il y a deux choses qui sont gravement menacées aujourd'hui. C'est la liberté d'expression et la vie privée. Et je trouve qu'il n'y a plus de vie privée. Et cet étalage de ce procureur participe d'une dévaluation totale qui nous paraît, où tout le monde est absolument indifférent à ça. La vie privée n'existe plus. Et je suis désolée, moi, je n'en ai rien à faire de ce qui s'est passé dans cette caravane lundi matin. Ne me regarde pas. C'est peut-être l'intérêt du public, mais ça n'est pas d'intérêt public. Je n'ai pas envie de le savoir. Les gens ont droit à leur vie privée.
C'est fini.
On a l'impression que tous ces détails sont donnés pour accréditer, légitimer l'idée de suicide. Et on nous prend pour des lapins de
C'est fini, c'est fini. Alors on va recevoir notre ami Philippe Val et puis on va recevoir également Jacques Vendroux parce que vendredi Vendroux se fera en direct sur ce plateau.
Ça veut dire Gauthier.
Ça veut dire au revoir
Gauthier. Rentrer chez toi.
Ben oui, tu vas être obligé de laisser les grands à table. Il va falloir que tu ailles.
Tellement méprisant.
C'est adorable. Tu vas aller te faire dodo. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end?
Ce week-end chez Cyril Hanouna samedi et dimanche pour la dernière de la saison puisqu'après face à Hanouna s'arrêtera pour septembre prochain et puis voilà.
Ah mais ça, il arrête déjà la saison, Cyril.
Parce qu'après il y a les ponts du mois de mai. Déjà ça a été prolongé. Ça devait être. Bon. Jusqu'au début du mois d'avril et autrement je vais
théâtre,
me poser.
Cinéma,
je célèbre ce soir, figurez-vous, les 70 ans de rencontre de mes grands-parents. Si vous voulez savoir si ils célèbrent ce soir, ils réunissent leur famille pour célébrer les 70 ans de leur rencontre.
Bon, et voilà. C'est vrai que c'est l'usage dans les familles un peu bourgeoises de perpétuer des traditions anciennes. Bon week-end, embrassez vos grands-parents.
Vous allez critiquer ça, très bien.
Embrassez vos grands-parents, à tout de suite.
Je ne manquerai pas.
Philippe Val est avec nous et il a publié un bouquin génial, Rire. Seul le grand souffle du rire redonne à notre vieux monde l'éclat de l'éternelle nouveauté. Et c'est vrai que dans le climat actuel, souvent, moi, on en parle ici, c'est notre grille souvent de lecture. Il y a des gens à qui on peut rire et des gens à qui on ne peut pas rire. On ne peut pas rire avec Robespierre.
C'est difficile. Peut-être qu'il a ri une fois ou deux, mais ça n'a pas été noté.
On peut pas. Et j'entends aujourd'hui dans le paysage politique des gens dont je devine on ne peut pas rire avec eux. L'esprit de sérieux, l'esprit de gravité, l'esprit de componction est là.
Ça a toujours existé. Je pense qu'il y a un héritage rousseauiste qui est sérieusement grave et qui a établi un tas de thèmes avec lesquels on ne rit pas. Il n'y a qu'à lire la correspondance, à mourir de rire d'ailleurs, entre Voltaire et Rousseau, qui est très très, très violente et très drôle, où Voltaire se fout de sa gueule précisément parce qu'il ne rit pas, parce qu'il est sérieux dans les choses les plus incroyables, les plus aberrantes.
Oui, mais on pouvait rire dans le temps, on pouvait dire des choses horribles dont on savait que c'était du second degré et qu'on ne les pensait pas pour jouer à celui qui précisément était horrible et le public le comprenait. Et aujourd'hui, ce second degré est pris pour du premier degré. Moi, il y a plein de choses que je ne dirais jamais à l'antenne, mais que je peux dire dans un dîner parce que chacun comprend que je suis en train de... que je joue.
Je pense que les gens sont moins bêtes qu'on ne pense et je crois qu'ils comprennent très bien le second degré.
Oui, les gens les comprendraient bien,
c'est ça.
Ils ne veulent pas montrer qu'ils comprennent le second degré. Ils ne veulent pas accepter ce second degré. Est-ce que d'ailleurs c'est du second degré ? Est-ce que ce n'est pas simplement une expression au premier degré d'une liberté humaine, de rire, de choses tragiques ou sacrées, qui est notre façon à nous de vivre avec la conscience qu'on va mourir, avec la conscience que la vie n'est pas toujours rose, qu'il y a des phénomènes historiques massivement tragiques, et que malgré tout, il faut rester, faut garder une espèce de dignité vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de nos voisins, des gens qu'on aime, et avoir en soi une certaine gaieté, cultiver une certaine gaieté pour que la vie soit facile, et faire rire les gens autour de nous avec ce qui leur fait peut-être mal. Et tout d'un coup, ça leur fait plus mal. C'est quand on est dans une salle de spectacle, on voit ça. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les salles de spectacle quand j'étais petit. Enfin, j'ai encore maintenant, moins hélas, mais j'allais beaucoup à Bobino, j'habitais à côté, voir les gens que j'aimais. Et quand les gens rient ensemble dans une salle de spectacle, ils établissent un lien incroyable. Quand on rit à quelque chose de tabou, il y a une espèce de fraternité immanente dans la salle qui est incroyable, une complicité humaine qui est irremplaçable.
Alors on va évidemment essayer de rire d'abord ensemble et avec Jacques Vendroux qui viendra tout à l'heure, mais pour le moment c'est Soleil à la midi qui nous rappelle les titres.
Il reste au plus haut. Selon notre sondage opinionné pour CNews, Jordan Bardella, tête de liste RN, crédité à 30% des intentions de vote pour les européennes. Valérie Ayer lui emboîte le pas avec 18%. Raphaël Glucksmann gagne un point avec 13% d'intentions de vote. Nouvelle agression après un rendez-vous sur un site de rencontre. Un homme attaqué à Hénin-Beaumont hier soir par deux individus alors qu'il pensait avoir rendez-vous avec une mineure. Il a été retrouvé partiellement dévêtu et en état de choc. Actuellement hospitalisé, il devrait pouvoir être entendu par les enquêteurs dès demain. Et puis le prix de la meilleure baguette de Paris remis à une boulangerie du 11e arrondissement. Xavier Nétry de la boulangerie Utopie, située rue Jean-Pierre Timbaud, aura désormais l'honneur de fournir l'Elysée pour l'année à venir et empoche la somme de 4 000 euros.
Merci beaucoup, Soumaïa. Alors, on fait souvent la différence entre rire et ricaner. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ricanent aujourd'hui. Alors, moi, j'écoute comme tout à chacun France Inter. Et ils ne me font pas du tout rire. Je les trouve pas drôles. Je trouve qu'ils ne sont pas jubilatoires. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas de côté absurde. Il n'y a pas de dérision. Il n'y a pas de... Bon, ça me fait pas rire. Au contraire, par exemple, de Cave-Rivière, qui, même s'il dit... Pourquoi pas des horreurs, en l'occurrence, sur moi, mais il me fait rire.
Hier, hein. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour le
travail. Mais oui, moi, il me fait rire, alors qu'il se moque de nous. Il dit, par exemple, que CNews est, je crois, le centre de formation du RN. Bon, mais il le dit en s'amusant.
Il y a une légèreté.
Voilà, je trouve que c'est plutôt rigolo ce qu'il dit, Cavrivière, et je l'ai encore vu il y a 3 jours. Vraiment, il me fait rire. Donc, ce n'est pas tant ce qu'il dit... Mais c'est la manière dont il dit, et lui, il me fait rire. Vous écrivez sur les comiques de gauche. On objectera, aujourd'hui en France, il n'y a pratiquement que des comiques de gauche. C'est tout le problème. Ils ne sont pas drôles parce qu'ils sont de gauche, ou alors ils sont de gauche parce qu'ils ne sont pas drôles. Ça marche dans les deux sens. En d'autres temps, on aurait pu dire la même chose avec la droite. Et ça, c'est vrai ce que vous dites en d'autres temps. Expliquez-moi cette phrase.
Non, mais parce que le rire, à partir du moment... Où quelqu'un est connu pour ses opinions politiques, ses idées. Il va faire un spectacle, pas tous, hein, mais il y a une ou deux exceptions, mais il va faire un spectacle ou des sketchs avec ses idées politiques, donc il va conquérir un public qui va être d'accord avec lui. Et il va dire à ce public des choses qui vont réjouir le public, des choses qui vont réjouir le public parce qu'ils sont d'accord. Donc, en quelque sorte, la façon d'obtenir le succès, en Angleterre, aux États-Unis, on appelle ça des clappers. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui font rire, c'est des gens qui font applaudir. Et pof, on applaudit parce que je suis d'accord. Le rire est attendu. On dit des choses attendues. Et c'est une façon de conquérir le public. Et moi, c'est un humour qui me fait pas rire parce que j'aime les gens... le rire, et pour moi le grand rire philosophique, c'est le rire de surprise. C'est celui qui provoque en nous quelque chose qu'on n'attend même pas de nous-mêmes et qui révèle quelque chose de nous-mêmes et qui tout d'un coup nous libère de quelque chose qu'on ne savait pas en nous.
Voilà. Qui vous fait rire alors aujourd'hui?
Ah bah, y en a qui
vous fait rire?
Il y a quelqu'un, Cave Rivière, Blanche Gardin, parce que Blanche Gardin, elle est ses idées politiques, vraiment, ce n'est pas les miennes. Elle est plutôt LFI, et ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais,
elle peut tenir,
mais sur scène, pas du tout.
Mais pas
sur scène, ouais. Pas du tout. Ouais. Elle est très surprenante.
Et
elle est géniale.
Elodie Poux, c'est drôle.
Je ne la connais pas.
Guillaume Meurice, vous fait-il rire?
Pas du tout. Il ne me fait jamais rire parce que c'est tellement attendu. Ouais. Je sais qu'il va dire du mal de Bernard-Henri Lévy et d'Alain Finkielkraut, etc. Donc ça ne me fait jamais rire.
Mais il y a une polémique quand même parce qu'il a été, entendu par la police, ouais, pour une blague sur Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est aller trop loin que d'aller mettre un humoriste devant des policiers pour une blague? Est-ce qu'on ne va pas trop loin là?
Alors, je lis vos articles dans le Figaro consciencieusement et avec plaisir. Et vous avez dit une chose qui, pour moi, je suis entièrement d'accord avec vous.
J'ai chroniqué son livre, effectivement.
Absolument, entièrement d'accord avec vous. Vous avez dit, moi, ça ne me gêne pas, que ça existe et qu'il y parle. Le problème, c'est d'abord, un, que ça soit mono-idéologique, l'émission, mais surtout, c'est l'argent public qui paye, l'argent de tous. Et c'est vrai qu'il y a une gêne de ce côté-là. Sinon, moi, personnellement, je m'en fous. Il a le droit de dire ça. Hein. On est dans une démocratie. On n'a qu'à faire mieux que lui. On n'a qu'à dépasser...
Il a été mauvais sur ce coup-là. Donc, finalement, il a été...
Alors, ça fait pour répondre à la question de Pascal, aujourd'hui, il y a des tas de choses qui me font rire, oui, et qui vous font rire aussi. D'abord, tous les grands auteurs sont drôles. Les grands auteurs sont tous drôles. Proust est un grand, grand humoriste, un satiriste extraordinaire. Balzac, c'est incroyable. Il
n'y
a pas une page dans Balzac où il n'y ait pas une blague, quelque chose, une
astuce.
Mais Suran, je trouve ça très drôle. Oui. Pascal, je trouve ça très drôle quand il dit si deux personnes sur Terre savaient ce qu'elles se disent, ce qu'ils se disent l'un de l'autre quand ils ne sont pas là, il n'y aurait pas deux amis sur Terre. Ben moi, ça me fait rire.
C'est vrai qu'il y a un humour dans les pensées.
Pas le plus grand comique.
Mais oui, si, non, c'est beaucoup plus drôle que Bigard, justement, parce que c'est la nature humaine.
Pascal est très important dans la pensée française. Mais il n'arrête pas de s'opposer à Montaigne, qui lui est vraiment très drôle.
Mais quand vous dites Proust est drôle, les gens ne le perçoivent pas, ça, cette...
Par exemple, il y a un auteur.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Proust, c'était drôle.
Il y a un auteur qu'on ne peut pas comprendre si on ne voit pas que c'est un comique. C'est l'auteur mondialement connu, Georges Luis Borges. C'est un auteur très très drôle. Si on ne comprend pas qu'il est drôle, on ne comprend rien à toute son œuvre. Mais parmi les comiques, on pourrait dire professionnels, il y en a un qui me fait me rouler par terre de rire, c'est Ricky Gervais. Alors, il est vraiment stupéfiant parce que ce type, d'abord, est très cultivé, ça se sent. Il a une vraie pensée, il est très construit, il domine le métier en quelque sorte. Et il ose des choses que personne n'ose, vraiment personne. Ça va très très loin. On est tellement surpris par ce qu'il dit. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est profondément philosophique. On se sent tellement vivant quand on rit à quelque chose qui est une stupéfaction. Pourquoi ? Parce que, en réalité, l'idéal dans la vie, ce serait d'être tout le temps débarrassé de préjugés moraux, au moins pour ressentir tout de suite la réalité pour ce qu'elle est. Bon, c'est très difficile, mais avoir un affect débarrassé de la morale, en quelque sorte, pour être d'abord, avant d'être triste, avant d'être indigné, avant d'être contre, avant d'être pour, d'abord stupéfait que la chose existe.
Vous avez raison, parce que je trouve que la gaieté, comme le rire, c'est à la fois une forme d'élégance et de résistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois on est stupéfait de rire de quelque chose dont on ne se serait pas permis de rire tout seul, et quelqu'un nous l'amène sur un plateau de façon extrêmement drôle, ça, et on rit. Et surtout à notre époque où ce rire nous est contesté, où on nous explique que là, il faut rire et là, il ne faut pas rire, votre livre, il est très salutaire, finalement, parce que ça nous rappelle que, ouais,
ce qui change tout. Et moi, j'ai eu ces conversations, parfois, je vais le citer, avec Gilles Verdez. Gilles Verdez, lui, il m'expliquait que, en fait, à partir du moment où tu fais rire et où quelqu'un peut être offensé, faut pas faire la plaisanterie.
Donc à ce moment-là, on peut plus, on peut pas se moquer des footballeurs, on peut pas se moquer des Bretons, on peut pas se moquer des Corses, on peut se moquer de personne en fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dira, moi je suis offensé, je suis offensé. Bon, bah, voilà. Et c'est vrai que ce qui change, sans doute tout, qui n'existait pas dans les années 70 ou 80, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre bouquin d'ailleurs, la dictature des ressentis. C'est-à-dire que les gens, ils disent, ah oui, mais vous m'offensez.
Oui, c'est ça.
Vous m'offensez, si vous moquez par exemple des handicapés, bah vous m'offensez parce que j'ai peut-être un enfant handicapé. Si vous moquez, pourquoi pas, de la religion musulmane, vous m'offensez parce que je suis musulman. Donc c'est ça qui est...
C'est insupportable.
Bah moi je trouve que c'est insupportable aussi.
C'est totalement insupportable, c'est surtout anti-européen. Vous parliez de l'Europe tout à l'heure. Je pense que la pensée européenne depuis l'Antiquité associe de différent avec les autres civilisations, parce que... J'ai lu des romans chinois magnifiquement drôles, médiévaux, mais aussi modernes. Évidemment, Les Mille et Une Nuits sont un grand livre comique. Mais le rire dans d'autres civilisations n'a pas ce côté à la fois c'est pas une destruction créatrice. C'est-à-dire ça. En Europe, le rire détruit quelque chose, détruit des tabous, fait scandale, et par les failles du scandale passent l'art et les sciences.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un excès dans ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a pu appeler dans les années 90-2000, peut-être une comicocratie, avec un ricanement systématique qui dévalue toutes les formes de pouvoir, qui se moque de tout, qui aboutit à une forme de relativisme où on ricane de tout.
Oui, mais c'est ricaner, c'est pas la même chose.
Bien sûr.
Un rire qui salit tout.
Oui, le rire n'est pas là pour salir, le rire est là pour faire exploser quelque chose.
Si je peux juste poser une question.
Le rire de ricanement, complètement d'accord avec vous, le rire de ricanement est un rire...
Il n'est pas gentil en plus.
Complaisance.
Je suis d'accord. Alors, nous vivons, ça c'est une phrase vraiment forte, nous vivons un de ces moments inquiétants de notre histoire où le rire frivole est de nouveau malvenu, coupable, ennemi de classe, contesté dans sa nécessité. C'est dans les périodes où l'affreux ricanement de connivence prend le pouvoir avec ses blagues de propagande et ses leçons de moralité publique que le rire monte sur l'échafaud. On a commencé l'émission tout à l'heure avec Omar Sy. Je me demande si Omar Sy ne correspond pas à ça.
Oui, je ne sais pas ce qu'il a fait Omar Sy, évidemment que...
Omar Sy fait penser à une question que je lui ai posée, malgré Pascal, c'est pourquoi y a-t-il autant aujourd'hui de comiques qui se prennent au sérieux?
Parce que, précisément, j'ai passé beaucoup de temps à relire Rabelais. J'ai pas été jusqu'au 15, au livre 5, mais j'ai lu les 4 premiers, pour dire la vérité. Ce qui est jusqu'à la fin du quart livre. C'est extraordinaire. Faut mettre un certain temps avant de comprendre la démarche de Rabelais, qui est une démarche explosive. Ça ouvre les portes de la Renaissance à coups de pied. Mais vraiment un coup de pied. C'est formidable de voir ça parce qu'il y a une générosité. Alors on se demande comment il a fait dans ce siècle difficile qui était le début des affrontements de religion. Pourquoi il n'a pas été sur l'échafaud? Il était protégé par le cardinal du Bellay. Il était protégé ensuite. L'Église a voulu l'interdire. Il a eu un privilège royal pour publier ses livres parce qu'il faisait, il avait tellement de charme, de légèreté, de talent. Oui. Pour revenir à ce que je dis.
Mais pourquoi y a-t-il aujourd'hui autant de comiques qui se prennent au sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que je pense que la frivolité, la légèreté, l'humeur joyeuse sont des choses qui ne sont pas à la mode aujourd'hui. C'est quelque chose qui... Et c'est les comiques qui sont très sérieux. Or, le comique n'est pas sérieux. Le comique, il va à saut et à gambade, comme disait Montaigne. Il va à saut et à gambade, et c'est comme ça qu'il nous épate, et c'est comme ça qu'il provoque le vrai rire, qui est un... Ne l'oublions pas, le vrai rire est un phénomène physique.
Qu'est-ce qui symbolise parfois les années 60-70? Je trouve que Poiret et Serrault symbolisent cette légèreté, ce mot que j'adore, fantaisie.
Fantaisie.
L'absurde.
Vous savez,
des sketchs qui sont merveilleux.
Sur scène. Oui. J'étais au premier rang à l'Alhambra. J'étais gosse, j'avais 10 ans. C'était éblouissant.
Oui.
C'est un souvenir éblouissant. On avait l'impression qu'il y avait 15 personnes sur scène. Il était tout seul. Oui. Il incarnait plein de personnages. C'était un artiste absolument merveilleux. En tous les cas, à l'époque où je l'ai vu. Et je voudrais simplement dire une chose. Il touchait à tout, Fernand Reynaud. Mais plus il a été loin dans sa carrière, plus il était, j'en ai parlé avec des confrères à lui, des amis à lui plus tard, il souffrait d'être pris pour un pitre tout le temps. Donc à la fin, il a fait des sketchs plus sérieux, qui étaient moins bons. Et les premiers sketchs de Fernand Reynaud des années 50 sont beaucoup plus modernes que les derniers.
Alors,
les grandes vertus, ce que je voulais dire, c'est, pardon, mais les grandes vertus qui sont nécessaires, le courage, la loyauté, l'honnêteté, toutes ces grandes vertus ne valent rien si au-dessus, il n'y a pas la fantaisie, la légèreté, parce qu'elles deviennent morbides.
Alors, on va voir un extrait. Je vais vous montrer quelque chose peut-être que vous avez oublié. Je lis quelques passages parce que votre livre est vraiment très rigolo. D'abord, à quoi servirait l'intelligence si l'imbécilité n'existait pas? C'est la question combien pertinente que pose Pierre Dac, le génial humoriste. On peut d'ailleurs en inverser les termes. À quoi servirait l'imbécilité si l'intelligence n'existait pas? Bon, vous avez quand même un parcours atypique parce que vous avez dirigé France Inter. Vous avez évidemment dirigé Charlie Hebdo. Au départ, vous étiez très engagé plutôt à gauche et vous avez chanté. Et j'ai retrouvé un extrait où vous chantez un texte sur l'autogestion.
Ah,
vous vous souvenez de ça?
Oui, oui, je me souviens très bien de ça. Oui.
Donc c'était il y a quasiment...
il y a 40 ans.
Peut-être. Plus que ça, c'est en 77.
Oui, c'est ça. Oui.
47 ans. Écoutez ça et vous allez me dire le regard que vous portez sur le jeune homme que vous étiez d'accord, à l'époque. D'accord. Écoutez.
Il n'y aura plus de conneries à la radio. Rien que des idées, rien que du nouveau. Connaissance et plaisir seront mêlés. Il y a des speakers qui devront changer de métier. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On saura qu'on respire tous le même air, que bêtes et hommes, hommes et univers, atomes, cosmos, on est tous solidaires. On fait tous la ronde dans la même galère. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. En attendant, on trime tous comme des cons, chacun fermé pour cause de production. On crève d'ennui entre deux élections, on crève de faim de l'autre côté de l'horizon. Y'a que l'utopie qui allume l'horizon, rien n'est plus poétique que l'autogestion.
Bon, vous avez eu plusieurs vies,
ouais.
Ce n'est pas si fréquent.
D'abord, ce pianiste était un ami tellement un ami très intime, un grand pianiste qui a travaillé 15 ans avec Ferré, 15 ans avec nous, et qui était d'une intelligence redoutable, et je lui dois beaucoup intellectuellement. Et, outre le fait que c'était un grand virtuose. Et tout ce que je dis sur le rire, on en a tellement parlé dans la voiture, la nuit, entre deux villes, en tournée. Je lui dois beaucoup. Et le regard que j'ai là-dessus, c'est que je dénonce des choses que j'ai faites moi-même. C'est-à-dire que je sais bien à quelle facilité j'ai été entraîné par l'approbation du public. Et je pense qu'après, on se corrige avec les années. Mais voilà, je l'assume complètement, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a fait changer politiquement?
D'abord...
la réalité.
Oui, non, mais c'est exactement ça. Mais Pascal, vous avez raison, bien sûr. Le réel, j'avais cette il y a des philosophes avec lesquels j'ai beaucoup, enfin d'abord que j'ai lu, puis avec lequel notamment j'ai été ami, enfin j'avais une relation d'amitié comme Clément Rosset, et Clément c'est vraiment le philosophe du réel. Voilà, il a travaillé toute sa vie sur la perception du réel. Je pense que on doit changer d'avis quand la réalité change. Sinon, on est un abruti.
C'est ce que je dis à Monsieur Avalini sans arrêt.
Ça rejoint l'étonnement, ça rejoint le rire, puisque
vous êtes toujours de gauche.
Moi, comment vous dire, je suis profondément sceptique.
Peut-être vous êtes libéral.
Oui, je suis libéral, ça c'est certain. Mais je suis sceptique, ce qui est de certaine façon peut-être un petit peu conservateur maintenant, parce que le scepticisme est une façon tranquille d'être conservateur. Comme Montaigne, enfin, mon philosophe m'a le plus marqué, c'est Montaigne. Donc vraiment, Montaigne, pour moi, ça a été une éducation. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu et relu. Et son scepticisme joyeux m'a convaincu. Et j'ai essayé toute ma vie de m'y tenir d'une certaine façon.
Jacques Vendroux va venir.
Alors là,
Jacques Vendroux va venir et Jacques Vendroux il nous fait rire. C'est vraiment ce livre. Alors je le dis, c'est aux éditions de l'Observatoire. Philippe Val, rire à acheter ce livre parce que d'abord c'est très intelligent, c'est très tendre. On voit également votre émotion, je l'ai perçue quand vous avez revu votre ami un pianiste il y a quelques secondes. Et ça, c'est ça aussi qui est intéressant lorsqu'on est avec vous, c'est la sensibilité qui est la vôtre et qu'on perçoit, évidemment. Et puis cette intelligence, et puis c'est vrai que moi je ne vous connaissais pas par exemple, et je vous vois à Europe 1 le matin et très vite on a trouvé un terrain simplement de dire des bêtises. Ce qui est quand même une chose assez agréable de dire des bêtises lorsqu'on a un certain âge. C'est-à-dire, bon voilà, ça, c'est plus important que tout. À quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne vas pas dire des choses sérieuses. De toute façon, tu es obligé de dire au départ des choses un peu légères. Bon, l'évidence n'intéresse pas l'être humain. Il préfère imaginer des causes cachées, des apparences trompeuses, plutôt que se rendre à l'évidence que seules existent les apparences. Il invente des volontés mystérieuses derrière des événements sans mystère. Alors ça, c'est le côté parano de tellement de gens. Il croit pouvoir abolir le hasard en lui prêtant un but. Cela nécessite une grande énergie inquiète, capable de survivre au plus humiliant démenti et le plus grand sérieux pour se convaincre et convaincre les autres. Vous n'imaginez pas comme je signe sur ces... D'abord, personne ne l'avait écrit comme vous l'écrivez là. Je trouve que c'est d'une intelligence prodigieuse. Ces quelques lignes-là, l'évidence n'intéresse pas l'être humain. Il préfère imaginer des causes cachées, des apparences trompeuses, plutôt que se rendre à l'évidence que seules existent les apparences. Il invente des volontés mystérieuses derrière des événements sans mystère.
Tellement vrai.
Mais c'est vraiment, c'est formidable d'avoir écrit ça. Bon, Monsieur Vendroux, il va arriver dans une seconde. Et il arrive d'ailleurs, Jacques Vendroux, parce que lui, il est plutôt joyeux, a priori. Et puis, il y a un autre passage aussi que je pourrais lire. De même que dans la classe qui se croit aristocratique parce qu'elle a de la fortune, on évite les mésalliances. On trouve chez les pauvres une certaine répugnance à se mélanger avec qui n'est pas de son monde. Ça, moi, j'ai pensé à Salaud de pauvre, vous savez, la phrase de Gabin dans la traversée de Paris. Non, mais c'est pas politiquement correct de dire ça. Hein.
Non, d'ailleurs, le passage en question, je crois qu'il n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité.
Ouais.
C'est comme ça. C'est observé, on pourrait dire. Ouais. C'est documenté. Et il faut en parler.
Ouais. Ouais. Bon, vendredi, jingle.
Bonjour.
Ça va ? Monsieur Vendroux.
Comment ça va ?
Alors, Monsieur Vendroux va venir aujourd'hui, parce que d'habitude, il est un peu à l'extérieur, mais là, il a joué avec le président de la République. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas dire du mal du président de la République.
J'ai aucune raison de dire du mal, parce que je l'aime bien.
Oui, vous avez d'abord. Et vous avez raison. Vous avez. Mais bon, c'est vrai que le pénalty qu'il a marqué, je n'ai pas trouvé le gardien très.
Je voudrais simplement dire que je suis tellement content de voir Philippe.
Ah oui.
Qui est l'un des mecs les plus marrants que je connaisse.
Vous avez travaillé ensemble à France Inter.
J'ai écouté ce qu'il a dit, etc. On a passé des moments merveilleux ensemble. Et je crois qu'on a un point commun, c'est qu'on se réveille le matin. Moi, quand je me réveille le matin, je voudrais savoir quelle connerie je vais faire dans la journée. Et ça, c'est magique. Moi, quand on vous dit quelle connerie on peut faire. Alors un coup, drôle, un coup, c'est pas marrant, un coup, c'est très drôle, etc. Mais moi, c'est quand je me réveille le matin, c'est grave, hein, à 76 ans. Quelle connerie je peux faire? Et ben voilà. Et donc la dernière plaisanterie, c'était d'organiser un match de football, et qui n'est pas une connerie, parce qu'on a passé un moment merveilleux. Mais avant qu'on dise, qu'on parle du pénalty, je voudrais dire qu'on a gagné 60 000 euros pour les pièces jaunes, bon, qui a été créé par Bernadette Chirac. J'ai d'ailleurs une pensée pour elle, je l'embrasse. Et qui est, donc les pièces jaunes ont été... Cette association a été reprise par Brigitte Macron. Et vraiment, on a passé un moment exceptionnel, je dirais, à l'occasion de ce match de football. Vraiment, bon, un moment de bonheur avec le Variété Club de France. Franchement, je voulais le dire. Voilà. C'est pour ça que Pascal m'a demandé de venir.
Bon, ben alors, mais bon, donc vous taquine un peu, mais c'est vrai que le pénalty, le gardien de but, il est pour Valvoir. Bon, il n'est pas.
Il bouge le gardien.
J'ai entendu, mais bon. Vraiment. Voilà, là, franchement, Jacques.
Le gardien, j'ai été le voir.
C'est qui le gardien d'abord?
Nathaël Gavan.
Mais c'est un vrai gardien de but.
Ah oui, c'est un vrai gardien.
Mais là, c'est dur d'arrêter un pénalty du président de la République.
Attendez, moi j'ai joué gardien de but. Donc oui, je sais exactement ce qu'il faut faire ou pas faire. Moi, je n'ai jamais arrêté un pénalty de ma vie. De toute façon, déjà au départ, j'ai été le plus mauvais gardien de but du monde avec la variété.
Vous avez un successeur là, apparemment, j'ai l'impression.
Non, donc, y a le penalty et je vais le voir, Nathalie, je le connais, puisqu'on avait fait un patchwork de deux équipes du variété avec la société civile pour ce match, etc. Et je lui dis, mais t'as pas bougé. Il m'a dit non. La dernière fois qu'il a tiré un penalty avec le variété, c'était à Poissy, il a tiré au centre. Il se souvenait. Et donc, il dit, j'ai décidé de ne pas bouger. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pas la peine d'aller plus loin.
Bon, est-ce que le président vous a donné quelques confidences sur le plan politique? Est-ce que le président, est-ce que vous savez? Est-ce que vous l'avez trouvé inquiet? Est-ce que vous l'avez trouvé?
Je crois honnêtement que c'était pas le moment, premièrement.
Donc, il n'a pas parlé politique du tout avec vous?
Pas du tout, non. Il est arrivé, décontracté, il est rentré dans le vestiaire, on a joué, on s'est échauffé. Il m'a offert l'une des plus belles joies de ma vie. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas joué au football, parce que malheureusement, je suis plus tout jeune. Et donc, il me dit, Jacques, au moment où je donne la composition de l'équipe, donc dans le vestiaire, il me dit, Jacques, j'ai une faveur à te demander. Pardon? Pas du tout prévu. Ah bon, j'ai quoi? Il me dit, je voudrais que tu joues les deux ou trois premières minutes avec nous. J'ai attendu, les enfants, vous êtes gentils, je n'avais pas joué depuis 15 ans. Et il m'a apporté mon sac, avec des gants, mon short, mon maillot. Et donc j'ai joué.
Et donc vous avez joué. Et il a joué tout le match, le président.
Il a joué tout le match. Bon, il est venu. On n'arrive pas à le sortir.
Oui, bah, oui, ça, c'est ce que dit Marine Le Pen également.
Oui, mais. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce film.
Mais non, mais vous avez raison.
On a passé un super.
Et le soir, il y avait un petit dîner à l'Élysée avec tout le variété.
Oui. Bon. Il n'y avait pas que le variété. Il y avait Tony Estanguet, il y avait Philippe Diallo, il y avait. On a passé un grand moment. Et d'ailleurs, il nous a annoncé. Alors, on parlait d'un scoop.
Oui.
Il va au G20. Vous êtes au courant, le G20 a lieu au mois de novembre au Brésil.
Oui.
Il nous a annoncé qu'il y allait. Il nous a annoncé qu'il nous emmenait et qu'on allait jouer à Maracana contre une sélection brésilienne.
Ah, maintenant, il va être président du variété Club de France. Faites attention. Qui est-ce le président aujourd'hui? C'est Carl Olive?
Carl Olive.
Faites attention parce qu'il va avoir un peu. S'il veut être président du variété.
Ben, on va attendre quand même.
Donc, vous allez vraiment aller au stade Maracana tous ensemble?
Bien sûr, au mois de novembre.
Bon, je crois qu'on pourrait citer le pianiste. Oui. Avec qui vous jouiez en 1977.
Paul Castagnier, un énorme pianiste, merveilleux pianiste, d'une intelligence formidable, et qui a été. Il a travaillé 15 ans avec Léo, avec Ferré.
Oui.
Et Ferré disait : mon pianiste, il est plus intelligent que Sartre. Ce qui n'était pas faux.
Bon. Je voudrais qu'on écoute juste, parce que vous savez que Thierry Roland, qui était votre ami,
notre ami,
de là où il est, il a commenté le pénalty du président de la République. Et je voudrais qu'on l'écoute.
Je ne dis rien, je vous fais remarquer. Je ne dis rien. Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme. Oui, mon petit bonhomme. Bravo. Bravo.
En demi-finale.
Ah, il a tiré. Attendez, il a raté du poteau. Il a ras du poteau, le pénalty, le ballon. Et le gardien, il ne peut pas aller chercher, attention. Hein. Mais bon. Oh, Thierry. Ah, non, il a ras du poteau. Attendez, je n'ai pas vu cette scène-là. Il a ras du poteau. Hein. Franchement, il est bien tiré, ce pénalty. Ah, franchement. Ah, Thierry. Ah, quelle idée géniale.
Bon,
mais donc, Thierry, ça l'aurait bien fait marrer, hein, ce genre de truc.
Ah, bah, ça, je pense qu'effectivement, ça l'aurait fait sourire. Bon, il est déjà 10h28, donc traditionnellement, le vendredi, je vous propose d'écouter d'abord Brigitte Millot. Brigitte qui sera demain à 10h30 sur l'antenne de CNews pour parler de l'activité physique. Je ne sais pas si vous faites tous du sport. Vous faites du sport, Eugénie?
Du vélo, et je m'occupe de mes enfants.
Vous faites du sport Oui, vous faites du sport, vous, Joseph. Vous courez, vous faites du cardio, vous faites...
De la muscu.
Philippe, vous faites quoi?
Vélo. Elliptique, enfin, je suis sportif.
Bon, vous...
Vélo,
madame. Beaucoup de sport, je fais même des semi-marathons.
Ah oui, ça, effectivement, semi-marathon. Là,
le marathon, c'est trop dur.
Et Jacques, vous, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est que vous vous rendormez, paraît-il.
J'avais tout dit. J'ai fait beaucoup de sport et j'essaye d'en faire encore un petit peu.
Bon, écoutons Brigitte Millot qui dit « bougez-vous ».
Et alors, l'activité physique, elle va permettre quoi, à part d'augmenter sa masse musculaire?
Alors, l'activité physique, elle permet...
À quoi comme bienfait?
Bah, elle, elle a des bienfaits sur tout, justement, ouais. sur la respiration, sur la digestion, oui. sur la circulation, sur la peau. Si la circulation est nettement améliorée, vous aurez aussi une plus jolie peau. Enfin, ça agit absolument sur tout. Mais il y a une fonction que l'on connaît moins. Mm-hmm. C'est qu'en fait, les muscles, quand on pratique une activité physique, il y a une activité sécrétoire. C'est-à-dire qu'en fait, les muscles en activité, ils vont sécréter à peu près 1000 petites molécules, on appelle ça des myokines, peu importe, qui vont aller agir sur tout l'organisme. Donc tu vois, c'est quand même pas rien, quoi.
Et puis vous êtes entré, cher Jacques, dans la légende de l'Élysée, puisque la photographe officielle du président de la République, vous les avez vues les photos de Soisy de la Moissonnière ?
J'ai pas tout vu.
Regardez comme vous êtes, regardez comme vous êtes beau. Ah
ouais. Bah c'est bon, moment je sors du vestiaire.
Et ça, j'espère que vous allez l'avoir en chez vous et que vous pourrez mettre un joli pêle-mêle et pourquoi pas un petit encadrement. Et regardez comme elles sont belles ces photos.
Il y a Didier Deschamps.
Didier Deschamps, bien sûr.
Il y a le président.
Bien évidemment.
Et avec le 13,
il y avait Madame Macron qui
c'est
était
Johan
là.
Niskens.
Ah, c'est Johan Niskens.
Grand joueur du monde. Ah oui. Avec l'Ajax et Barcelone.
Bien sûr.
Et
bien
il nous a offert
bien
les dernières minutes de sa carrière avec nous. Mmh. Il est venu de Suisse où il habite maintenant.
Donc voilà ces photos et vous pourrez, j'imagine, demander à Madame Soisic de la c'est de la Moissonnière, hein, je crois. L'essentiel chez Labro, votre émission à retrouver ce samedi à 12h55 sur C8. Philippe Labro reçoit la musicienne Eva Zavaro, un prodige du violon classique qui multiplie les festivals cet été. Pour elle, il n'est jamais trop tôt pour démarrer l'apprentissage du violon. Écoutez ce passage.
La précocité n'est pas une fin en soi, mais disons qu'en classique, en musique classique, c'est une discipline quand même très exigeante qui nécessite, je pense en tout cas, au violon et au piano, de commencer à un très très jeune âge. Mmh. Il y a vraiment cette dimension purement musculaire, physique. Aussi, le violon est un instrument quand même qui demande une position tellement particulière qu'elle est très difficile à acquérir de manière naturelle quand on commence plus tard. Il y a évidemment des exceptions. J'en ai pas en tête, mais évidemment que si vous voulez commencer le violon, commencer de toute façon, ça vaut le coup. Mais pour en faire son métier, c'est vrai qu'il est recommandé de commencer de préférence avant les 8-10 ans, et encore mieux à 4-5 ans, quoi.
Alors, on parlait des sportifs de haut niveau. Clairement, j'ai quelques potes qui ont fait le CNSM, conservatoire de musique.
Ouais. Ouais.
Ils s'entraînent quotidiennement, mais c'est... Nous, les comédiens, on a beaucoup à apprendre des musiciens, je trouve, en termes de masse de travail, quoi.
Robin Goupil est également sur le plateau avec le philosophe, la philosophe Olivia Gazalet, le pianiste Guillaume Bellom. Ou Bellon, je ne sais pas. Philippe Val était avec nous ce matin pour son bouquin Rire aux éditions L'Observatoire. Il faut être aveuglé par la vanité d'avoir raison et avoir le portefeuille d'action idéologique plein à craquer de beaux et de biens pour ne pas s'apercevoir du soudain appauvrissement du produit culturel proposé. Le pitoyable roman des petits malheurs et des gros bobos intimes infligés aux victimes de la société par une domination culturelle blanche et hétérosexuelle à laquelle, par ailleurs, plus personne n'adhère. À part les quelques gardiens du musée d'une extrême droite hors d'âge. Donc là, on est effectivement, d'abord je trouve que c'est drôle, effectivement, mais c'est surtout, là une nouvelle fois, bien vu, et c'est le sens de votre bouquin.
Oui, une fois, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de... Le rire est une réaction. Est-ce qu'il est réactionnaire ? J'en sais rien, mais c'est une réaction. Donc, voilà, on est...
Il n'y a pas de grands artistes. Comment dire, il n'y a pas de grande intelligence ou de grands artistes qui ne soient pas drôles. C'est pas compatible. Quelqu'un qui n'aurait pas d'humour ne peut pas être intelligent. Quelqu'un qui n'aurait pas d'humour ne peut pas être un grand artiste.
En tous les cas,
c'est ce que vous dites. Et
je pense qu'un artiste est quelqu'un qui a une part d'humour peut-être qui est enfouie, qui est cachée, mais il l'a puisque pour représenter quelque chose, pour la représentation, déjà, ça demande une espèce d'humour. Je pense qu'un artiste, je parle du dédoublement de personnalité chez des gens comme aussi différents que Brassens ou De Gaulle ou Salvador Dali.
De Gaulle, c'est intéressant, par exemple.
Ah oui. Il était drôle.
Parce que De Gaulle, il avait bien confondu. Il disait que Gérald De Gaulle pourrait pas faire ça.
Voilà, c'est ça. J'en parle dans mon livre.
C'est un artiste de la politique.
Il dit j'irais bien me balader, mais Gérald De Gaulle, il peut pas.
Oui, plus que ça. Enfin, il avait conscience dès la guerre 14, quand il rentre de captivité, qu'il devient professeur à l'école de guerre, il décide de créer un personnage qui sera le général de Gaulle et qui sauvera la France. Lui, il a des failles. C'est un mec qui est sensible. Enfin, un mec, pardon, un homme, enfin, général, enfin, pas encore général, mais bon. Quelqu'un qui est sensible, qui est fragile, parce qu'il est dépressif. Il sait qu'il a des grandes failles, mais il crée un personnage qui va lui donner une très grande liberté, qui est le général de Gaulle. Et il en avait parfaitement conscience, il le disait. Par exemple, quand il est mis en ballotage en 64...
5.
5 soit, pardon, 5. 65, merci. Il est découragé. Et je crois que c'est à Malraux qui dit... deuxième tour, je n'ai rien à foutre. Il n'a pas fait campagne, parce que le général de Gaulle ne fait pas campagne. Donc, il faut dire qu'il fumait 3 paquets par jour.
Ah bon?
Oui, il fumait 3 paquets par jour. Et les médecins lui avaient dit, mon général, si vous voulez continuer à vivre, il faut arrêter. Comme la France avait besoin du général, il a arrêté de fumer du jour au lendemain. Quand il est mis en ballotage, il avait arrêté de fumer déjà depuis quelques années. Entre les deux tours, il dit à Malraux, moi, les Français ont peut-être plus besoin du général de Gaulle. Bah, c'est peut-être pas plus mal. S'ils ont plus besoin du général de Gaulle, moi, je vais retourner à Colombey et je vais me remettre à fumer.
Bah merci en tout cas, parce que nous sommes déjà en retard et c'est toujours passionnant, bien évidemment, de vous écouter. Il y a André Vanini qui me fait passer des messages. Ça, c'était dans votre immeuble, ça ? Monsieur, votre chien hurle à la mort quand vous n'êtes pas là. Il y aurait quelqu'un qui aurait répondu, ta femme aussi quand tu n'es pas là.
Faut rire.
Donc c'est ce que vous m'envoyez pendant l'émission. Yannis Capra était à la réalisation avec Rémi aujourd'hui. Denis est à la vision. Merci à Yannick qui était au son. C'est l'occasion de remercier la programmation Nicolas Nissim, Magdalena Derwisch, Lino Vitez et Louis Lallemand. Merci à Marine Lançon qui était avec nous bien sûr cette semaine, mais qui sera pas là je crois lundi, parce qu'elle a pris sa journée de lundi et c'est toujours triste quand elle nous abandonne pendant quelques heures. Félix Perrola était là, bien évidemment. Philippe Val, rire. Écoutez, ça nous a fait vraiment, ça nous a enchanté que vous soyez là. Merci Monsieur Jacques. La semaine prochaine, on vous retrouvera je ne sais où. Pour la suite de votre tour des sports olympiques. Merci. Alors, c'est la tradition, on peut applaudir Mme Anvers, c'est sa première avec nous. Hein, vraiment, parce que voilà. Ah, vous avez été parfaite. Merci beaucoup.
Merci.
Jean-Marc Morandini, dans une seconde, à lundi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.